magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous parlons des capacités de l'homme à s'adapter à lui-même. En deux siècles, nous avons révolutionné les paysages, développé l'industrialisation. Nous sommes devenus majoritairement urbains et la technologie est partout. Le bilan, nous l'avons dit dans la première partie de l'émission, est plutôt positif puisque, même s'il demeure de nombreuses inégalités, globalement, notre qualité et notre durée de vie se sont améliorées. Mais aujourd'hui, il semble que nous devions payer l'addition. Les pollutions multiples affectent notre santé, les ressources naturelles montrent leurs limites et nous-mêmes, oui, nous, les humains, notre évolution physique semble stagner. Alors, on fait quoi? Eh bien, on en parle justement aujourd'hui avec nos deux invités. Robert Barouki, professeur de biochimie à l'Université Paris-Descartes et co-auteur de Toxique, santé et environnement de l'alerte à la décision publiée aux éditions Buchet-Chastel. Et Jean-François Toussaint, cardiologue, professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes et directeur du groupe Adaptation et Prospective du Haut Conseil de la Santé Publique. Robert Barouki, est-ce que l'on peut dire que nous sommes désormais continuellement exposés à des substances toxiques?
Nous sommes en permanence exposés, vous avez tout à fait raison, et à peu près où qu'on soit. Bon, par exemple, à l'extérieur, il y a la pollution atmosphérique, hein, donc qu'on peut visualiser même parfois, hein, les particules et puis tout ce qui est tous ces composés volatiles. Mais à l'intérieur des maisons, il y a aussi un très grand nombre de molécules chimiques, hein, qui traînent. Si vous prenez un peu de poussière, on peut faire des analyses et montrer qu'il y a des milliers de molécules chimiques sur une poussière qui
reflète. Qui viennent des objets qu'on apporte dans nos maisons, la décoration.
Absolument,
la peinture,
l'école, la peinture, ce que vous amenez de l'extérieur, etc. Tout ça s'agrège et fait un mélange d'ailleurs très difficile à étudier. Ce sont des mélanges extrêmement complexes. Sur le lieu du travail, là aussi, il faut faire attention. Ça dépend. Il y a des professions extrêmement exposées à certains contaminants. Donc, on est exposé en permanence et à une multitude de produits.
Et puis, il y a aussi, évidemment, ce qui touche à notre alimentation.
Voilà, ça c'est donc l'autre voie. Donc là, il y a ce qu'on respire et puis il y a ce qu'on mange et tous les contaminants de l'alimentation sont maintenant extrêmement nombreux et divers, hein, tout ce qui vient des plastiques, tout ce qui est conservateurs et autres, ce sont des molécules chimiques aussi que l'on consomme, parfois des nanoparticules qui sont présentes dans on peut aussi avoir ça par la peau, hein, les crèmes que vous pouvez vous mettre sur la peau peuvent contenir aussi des choses. Donc on peut être exposé par différentes voies. In fine, et ce qui est vraiment important de voir, c'est qu'on est exposé à une quantité très large, des milliers, voire des dizaines de milliers de molécules chimiques.
Donc on n'a aucun moyen de se protéger finalement, on subit
bien sûr parce qu'il faut bien vivre et il faut bien venir dans ce studio et parler et sortir à l'extérieur pour rentrer au travail, mais d'un autre côté on peut subir et on peut agir aussi en essayant de identifier ce qui est le plus dangereux parmi ces polluants et de prendre des mesures de prévention. Et quand on le fait, ça marche. Moi, je travaille beaucoup sur les questions de dioxines, hein, donc ce sont les incinérateurs, par exemple, d'ordures ménagères, hein, qu'on voit. Hein, donc ici, on est à Issy-les-Moulineaux, c'est pas très loin. Les incinérateurs classiques produisaient une très grande quantité de dioxines. Bah, maintenant, on a mis des filtres, on a amélioré les choses dans certaines usines, et du coup, la quantité de dioxines dans l'air ou dans notre organisme a baissé considérablement ces dernières années.
Donc ça marche. Donc ça, c'est pour les pays développés, dans de nombreuses villes, les déchets sont à ciel ouvert. Et là...
mais parfois, il y a des solutions relativement simples qu'on peut appliquer à tous les pays. Mettre des filtres, disons, de qualité sur des cheminées d'incinérateurs, c'est possible partout dans le monde.
Alors, dans votre laboratoire, vous travaillez aussi sur les cocktails, puisqu'on est en effet exposé, vous le disiez, à de multiples substances. Par exemple, on peut être exposé à la fois aux pesticides à travers notre alimentation, aux perturbateurs endocriniens, on va expliquer ce que c'est à travers l'emballage de ce que nous mangeons, et puis à l'air ambiant. Tout ça complexifie, j'imagine.
Ben, ça rend les choses beaucoup plus compliquées parce que nous, dans nos laboratoires, déjà, on étudie l'effet d'un toxique d'une molécule, par exemple, sur un organisme, des cellules, et on voit ce que ça donne. Ça, c'est quelque chose qu'on peut assez bien faire et au total, on a une bonne idée de la toxicité de quelques centaines de composés. Mais la réalité de l'exposition, ce sont des mélanges et des mélanges très compliqués. Et ça, au jour d'aujourd'hui, ça nécessite vraiment beaucoup de recherches avant d'arriver à savoir comment gérer ces questions-là.
Je parlais des perturbateurs endocriniens, ça a fait beaucoup de débats. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est et où on les trouve ?
Les perturbateurs endocriniens ont modifié quelque part la manière dont on travaille la toxicologie. Avant, si vous voulez, on pensait la toxicologie un produit toxique qui vient tuer des cellules ou modifier l'ADN, faire des mutations dans l'ADN, etc. C'est un effet direct. Les perturbateurs endocriniens agissent de manière beaucoup plus subtile. Ils vont modifier cet équilibre physiologique de l'organisme, contrôlé souvent par des hormones. Hein, donc, on a tous entendu parler de l'insuline, des œstrogènes, qui sont les hormones sexuelles de la femme, des androgènes pour l'homme. Ces hormones ont un rôle très important pour notre physiologie, pour notre développement et toute une série de fonctions. Et les perturbateurs endocriniens sont des molécules qui viennent perturber leurs effets, soit les mimer partiellement, soit s'y opposer partiellement. Donc ils n'ont pas un effet visible de manière forte immédiatement, mais sur le long terme, ils vont modifier notre équilibre physiologique et entraîner des effets à plus long terme. Par exemple, apparition de certains cancers, des problèmes métaboliques de type diabète, obésité, certains problèmes de développement neurologique, etc.
Perte de la fécondité aussi.
Alors bien sûr, c'est comme ça d'ailleurs initialement qu'on les avait mis en évidence. Il faut bien voir que s'ils affectent l'homme, ils affectent aussi les animaux. Et initialement, on les a observés parce que certains lacs étaient contaminés, notamment par des pesticides. Et on a observé une diminution de la fertilité des animaux marins, parfois une diminution de la taille des organes reproducteurs, etc. Une inversion sexuelle pour les mollusques, etc. Donc c'était la première observation. Chez l'homme, on sait qu'il y a des problèmes de fertilité. On sait que la quantité de spermatozoïdes chez les mâles a diminué dans certaines villes depuis quelques dizaines d'années. Dire que ce sont uniquement les perturbateurs endocriniens qui sont à l'origine de ça et aller trop vite, ça peut être l'une des causes, sont parmi les suspects. Mais on n'a pas de
preuves. Rapidement, on les trouve où ?
On les trouve en fait partout. La perturbation endocrinienne, c'est un mécanisme. C'est pas une molécule en particulier, c'est un mécanisme. Et ça peut concerner les pesticides, certains le sont, la dioxine, les PCB aussi, mais aussi beaucoup de matières présentes dans les matières plastiques.
Donc, le fameux bisphénol A.
Le fameux bisphénol A qui présent dans les boîtes de conserve et dans des matières plastiques. Et donc qui va migrer de la matière plastique vers l'aliment. Et donc contaminer ainsi l'homme au travers de l'aliment.
Alors avec le progrès technologique, nous avons créé des pollutions d'un nouveau type. Elles sont partout, dans nos chaussettes, nos chewing-gums, dans le riz, le ciment ou les préservatifs. Les nanoparticules ont envahi notre quotidien, elles aussi. Ce sont des technologies qui manipulent des objets de la taille de la molécule ou de l'atome. Nous avons fait une émission sur ces nanoparticules il y a quelques mois avec Roger Langlais, auteur de Nanotoxique, une enquête publiée chez Actes Sud. Émission dans laquelle Dominique Désonnet, chroniqueur spécialisé dans les nouvelles technologie sur RFI, nous en dressait un petit panorama.
Nous trouvons par exemple des ordinateurs microscopiques, des écrans tactiles très plats et pratiquement invisibles, des capteurs de surveillance discrets, des antennes ultrasensibles, des dispositifs de stockage de l'électricité ou de l'hydrogène. Du côté des produits, il y a des revêtements dits intelligents qui filtrent les poussières de l'air, des peintures indestructibles qui s'autoréparent, la possibilité de rendre élastique et incassable le ciment, de fabriquer des vêtements alors anti-tache, anti-transpirant, anti-électricité, statique, anti-moustique même, pour combattre le paludisme ou la dingue, et même on a trouvé des costumes façon gilet pare-balles. Alors dans le domaine agroalimentaire, nous passerons sur les crèmes glacées ou autres petits plats sans sucre, sans graisse, anti-cholestérol qui font maigrir, car c'est toute la chaîne de la production agricole qui est concernée, avec par exemple le saupoudrage de nano-éléments dans les champs afin d'optimiser les récoltes, des poussières électroniques de contrôle qui sont employées par les industriels de l'agriculture américaine notamment, sans oublier aussi les emballages alimentaires chargés de préserver éternellement les denrées périssables. Et on remarquera au passage que les produits conçus grâce à ces nanotechnologies généreront un marché de 1000 milliards de dollars d'ici à fin 2015.
Alors déjà là, on a l'impression d'être dans une nouvelle dimension, mais ce n'est pas tout, puisque les dernières nouvelles concernant les recherches sur les nanotechnologies semblent là vraiment sortir des ouvrages de science-fiction.
Effectivement, cyborg, interface homme-machine, réparation et augmentation des performances des humains grâce aux particules de l'infiniment petit. On peut tout faire avec les nanos, même s'asseoir dessus, grâce bientôt au brouillard utilisé qui se présente sous la forme d'un nuage de nanoparticules intelligentes et polymorphes, qui serait composé d'un ensemble de robots microscopiques qui sont capables de se mouvoir dans toutes les directions et qui, en s'agglutinant les uns aux autres, pourraient, à la demande, se métamorphoser en n'importe quel objet, une chaise, une table, un nouveau canapé peut-être. De la science-fiction plus vraiment, les recherches militaires aux États-Unis de la DARPA vont dans ce sens, avec notamment les M-Blocks, ce sont des petits robots cubes capables de se mouvoir dans un espace donné, de sauter, de s'assembler pour former une structure plus grande. Prochaine étape envisagée par l'agence américaine, eh bien la miniaturisation à l'extrême, à un niveau nanométrique de ces machines de guerre.
Roger Langlais, le problème, la mauvaise nouvelle, c'est que ces nanoparticules sont mauvaises pour l'environnement en général et pour l'humain en particulier, puisqu'elles passent à travers nos tissus et même elles arrivent jusqu'à notre cerveau.
C'est ça, elles passent, pour un grand nombre, elles passent toutes les barrières organiques, la barrière de l'estomac ou de l'intestin, la barrière qui protège le cerveau, la barrière hématoencéphalique, celle qui protège le foie, etc. On a des nanos qui se baladent partout dans notre corps, et le problème, c'est que ces nanos sont souvent mutagènes, génotoxiques, c'est qu'elles tuent les cellules, elles peuvent entraîner souvent des cancers, avec un processus inflammatoire sur la longue durée, et elles jouent avec notre ADN. Bon, on ne sait même plus où il y en a. Les industriels ont plus grand mal aujourd'hui à faire des déclarations pour dire précisément dans quelles applications ils les ont utilisées.
Mais alors c'est trop tard.
C'est pas trop tard. Le problème, c'est qu'on peut plus gérer au cas par cas, comme le voulaient les industriels et les politiques. On est exactement dans la situation de l'amiante, mais en beaucoup plus grave, parce qu'il y en a beaucoup plus partout, y compris dans l'alimentation, etc., ce qu'on n'avait pas avec l'amiante, ou dans les textiles. Et résultat, la seule manière de se protéger désormais, c'est une interdiction globale et constituer un goulot d'étranglement à la mise sur le marché pour ne mettre dans l'avenir que les nanos qui auront été testés, qui auront démontré leur innocuité. Vous voyez, on va devoir passer d'abord par une interdiction globale, ce qui était évidemment ce que redoutaient le plus les industriels. Ils ont fait ce qu'ils redoutaient le plus.
Jean-François Toussaint, en tant que directeur du groupe Adaptation et Prospective du Haut Conseil de la Santé Publique, j'imagine que vous êtes penché quand même sur ces nanotechnologies.
C'est un des domaines sur lesquels effectivement, depuis plus de 10 ans, se mettaient en place des observatoires, toute une réflexion autour également de l'expérimentation animale, quels sont les modèles qui permettent de le faire, quelles sont les observations épidémiologiques qui nous permettent de comprendre. Et j'avoue qu'on a à ce stade une très grande incertitude sur ce que sont les réalités sanitaires de l'ensemble des nanotechnologies.
Allez, une petite pause musicale pour digérer tout cela en compagnie de Sangoy Blues.
Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Il quoi ma fondo qui canna zero chavirse. Bakin min kanda qui anni yakuma ma fondo qui kanir munde yitusu. Bakin min kanda qui il quoi ma fondo qui canna zero chavirse. Koi guma ma fondo koi kan nazari bero chabirse. Kuswar ki gashede wango mana haro ganji. Amadande wakir mir ganda koi. Alfari shede wango manir fari ganji. Ima firji wakir mir ganda koi. Fula ne shede wango mana hawi ganji. Ima busu wakir mir ganda gwe. Irkwe mafondo gwe kana honzaro chabirse. Guma ma fondo kai kana zari bero chabirshi. Ani yaguma ma fondo kai kanirga la munde itus. Après la guerre dans mon village, chacun fait son petit métier. Eh non le faux. Amisa koyo pora koyo no kato. Chacun fait son métier. Daso koyo pora. should turn you over. Hamisa Kochandoga,
écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Nous parlons du futur de l'humanité. Aujourd'hui, saurons-nous nous adapter au monde que nous avons transformé et évolué dans le bon sens pour garantir des conditions de vie agréables à notre espèce? Nous sommes avec Robert Barouki, professeur de chimie à l'Université Paris-Descartes, et Jean-François Toussaint, directeur de l'IRMES, l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie du Sport. Alors, un peu de prospective, ça va vous plaire, Jean-François Toussaint. Imaginez que nous sommes en 2093. Un historien analyse les erreurs des civilisations occidentales qui n'ont pas réussi à enrayer le réchauffement du climat de la planète. Après des centaines de milliers de morts et des milliards de pertes, le constat est amer. La nature se déchaîne et des pans entiers de la planète sont devenus inhabitables. Ce scénario est le résultat d'un travail mené par deux historiens des sciences américains, Naomi Oresk et Eric Conway. Anne-Sophie Novel a rencontré Naomi Oresk lors de son passage à Paris.
We were interested in the question of why people would reject the scientific evidence.
On a essayé d'explorer la question suivante: pourquoi est-ce que tant de gens rejettent les preuves pourtant établies scientifiquement qui devraient sonner l'alarme? Eh bien, c'est en raison de puissants intérêts financiers et d'idéologie, d'engagement extrêmement idéologique. Et avec mon co-auteur Eric Conway, on a essayé d'extrapoler un petit peu et de se demander, eh bien, que se passerait-il si jusqu'au bout, c'était ces intérêts financiers, cette idéologie du marché qui dominait.
So what we wanted to point out was that
if oui, et donc nous cherchions à souligner que si l'on continue de nier l'évidence et les preuves scientifiques flagrantes, eh bien, les problèmes ne feront que s'aggraver, et cela va favoriser les mouvements en coulisses de gouvernements beaucoup plus intrusifs et faciliter ainsi l'avènement des seuls gouvernements autoritaires.
Jean-François Toussaint, vous me disiez en écoutant Naomi Oresk que le déni est primitif en montrant l'arrière du cerveau.
C'est vraiment un des modes potentiellement d'adaptation aussi, et c'est ça tout le problème, c'est-à-dire que refuser la fin, refuser la possibilité de la catastrophe fait partie de nos modes adaptatifs. C'est la question de se dire: est-ce que je suis vivant pour aujourd'hui? La réponse est oui, donc j'ai des projets pour demain. Et à partir de ce moment-là, c'est rebondir en se disant: nous y serons encore demain, et donc du coup on peut prévoir l'après-demain, on peut prévoir la suite, et se dire qu'on a toujours été capable de s'adapter puisque nous sommes vivants aujourd'hui en tant qu'espèce et en tant qu'individu. Nous, par symétrie, nous donne simplement les capacités à nous dire: mais je me projette dans le futur et donc nous y serons encore dans 500 ans. À la vitesse à laquelle ça se passe, ces changements, et à la vitesse à laquelle on voit, par exemple, disparaître un certain nombre d'espèces, toute la question de la biodiversité végétale et animale est confondue dans ce problème de l'adaptation au sens très général au changement climatique, mais aussi à l'espèce humaine, eh bien, on se rend compte que on pourrait rentrer dans cette sixième extinction d'ici 2 ou 5 siècles. Voilà la marge d'incertitude à la vitesse à laquelle se font actuellement ces extinctions. C'est-à-dire que d'ici 200 ou 500 ans, on se retrouvera avec 75% des espèces végétales ou animales qui auraient disparu comme lors des grandes extinctions du Dévonien, du Crétacé et de ces... Donc cet ordre de grandeur à nouveau est tellement massif qu'on ne peut pas le concevoir individuellement. Et donc on le refuse et on se dit non, ça, sur l'étalage de nos gains, de tout ce qui ont été ces impacts positifs dont on parlait au début, à ce moment-là, ça va continuer quand même. Hein.
Mais alors, si on pousse ce déni primitif, on peut se dire, bon, très bien, dans 200 ans, 75% de la biodiversité en moins, mais les humains?
C'est la bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'on serait à côté de cet immense mouvement dans lequel on voit un certain nombre, hein. Il y a 420 millions d'oiseaux qui ont disparu en 30 ans, on voit des reculs de 20 à 60% en Europe. Parmi nous, des passereaux les plus courants, hein, les étourneaux, ces grands vols magnifiques dans lesquels on voit à nouveau ces formes émergentes au bord des lacs d'automne. Tout ça, ça a disparu. Tout ça, on le voit bien. Est-ce que c'est simplement ceux-là qui sont les témoins de... Hein, ou est-ce que c'est... une forme plus importante dans laquelle nous serions éventuellement inscrits? C'est bien toute la question, et c'est bien la vitesse à laquelle il faut que l'on réponde à cette question, et ensuite que nous trouvions les conditions de l'adaptation globale à cet immense changement, qui nécessite qu'on se pose maintenant la question. Alors, faut pas qu'on soit seulement à parler, faut pas qu'on soit seulement homo verbens, il faut probablement qu'on aille plus loin et que ces solutions-là maintenant soient mises concrètement sur la table.
C'est peut-être la force de l'humain justement d'être en capacité peut-être de l'action et de d'être en capacité de avoir ces prédictions et de se dire il y a pas de raison fondamentale qu'on soit différent des autres, à part que peut-être nous on peut faire quelque chose pour prévenir tout ça et changer le cours des choses pour qu'on n'aboutisse pas là. Mais vous avez des gens qui ont une attitude complètement sans aucune action en se disant on s'adaptera toujours, c'est arrivé dans le passé, ils vous citeront la Bible, etc. Et donc
il y a rien à faire,
voilà. Continuons comme ça et on verra bien. Et puis il y a une attitude qui se dit non, il faut tenir compte de ces prédictions, même si elles sont pessimistes, mais avoir l'optimisme de penser qu'en agissant, on peut modifier les choses.
Voilà, saurons-nous, durant ce 21e siècle, pleinement mériter le terme de sapiens, sage, dont nous nous sommes attitrés. Rien n'est moins sûr, mais nous avons quand même de bonnes perspectives, hein, malgré tout, on va essayer d'y croire. Robert Barouki, je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Franceline Marano et Denise Mirou, Toxique, publié aux éditions Buchet-Chastel. Jean-François Toussaint, vous avez participé avec Bernard Swinguedo et Gilles Boeuf à l'ouvrage « L'homme peut-il s'adapter à lui-même ?» C'est publié aux éditions Quae. Et c'est maintenant l'heure de la chronique climat de Pierre Radan.
La chronique climat de Pierre Radan vous est proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône.
La trace que nous allons laisser tous ensemble, c'est un accord historique sur le climat.
C'est qu'il faut, ce sont de gros moyens. Ça, nous les avons.
You can make history or you will be vilified by it.
Bonjour Pierre Radan.
Bonjour Anne-Cécile.
On va parler beaucoup de climat durant cette année 2015. Ça a commencé la perspective de la conférence de Paris, fait qu'il y a énormément de colloques, les médias se réveillent sur ce sujet. Mais la question, c'est comment allons-nous passer de la sensibilisation, du discours à l'action?
Les psychologues nous expliquent que, bien évidemment, cette affaire du changement climatique est vécue par les gens comme une mauvaise nouvelle. Les gens n'aiment pas les mauvaises nouvelles. Et donc, plus on sensibilise, plus on insiste, plus quelque part on génère une angoisse. Or, s'il y a une chose qui est claire en psychologie, c'est que l'angoisse conduit peu à l'action. Elle conduit au repli sur soi, à des attitudes défensives. Or, ce qu'il va nous falloir, c'est bien évidemment que les gens passent à l'action.
Alors, en tant qu'expert, vous avez identifié 8 directions possibles de passage à l'action. Alors, tout d'abord, il y en a plusieurs qui se passent au niveau individuel.
Oui, j'ai effectivement interrogé beaucoup de psychologues de nature différente sur ce sujet, catégorie d'ailleurs qui est généralement peu sollicitée. La première étape, c'est impliquer tous les acteurs. L'État, les entreprises, les collectivités locales, les citoyens, et c'est bien évidemment tout à fait essentiel, et il faut bien noter que dans un certain nombre de cas, par exemple, les messages publicitaires sont tout à fait contradictoires avec la prise en charge de ça. Et donc les gens, s'il y a doute sur la prise en charge, ben ils se mettent en posture d'attente. Et la deuxième étape, c'est un effort de formation. On a besoin, par l'éducation, par la formation, de comprendre ces processus, le rythme, l'impact, les causes. Et cela pour toutes les populations. On a effectivement un problème, c'est que les personnes qui sont les plus victimes du changement climatique, on l'avait vu pour les canicules en France, sont les personnes âgées. Or, les personnes de plus de 50 ans n'ont pas entendu parler de cette question-là dans leur cursus scolaire. Donc on a besoin d'une formation de tous à tous les âges. Ensuite, troisième point, comprendre le poids des émissions dans sa vie personnelle. Une famille de 3 enfants, c'est 20 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, un quart pour l'alimentation, un quart pour le logement, un quart pour le transport. Et donc, faut comprendre comment on peut agir sur ces postes. Quatrième point derrière, c'est avoir une connaissance générale des solutions, sans rentrer dans des détails techniques, mais comprendre la direction. Donc, à la fois l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables, les changements de mode de transport. Donc, progresser sur ces 4 niveaux aide chacun à avoir une vision de la transition qu'il va connaître dans sa vie, avec bien évidemment un point essentiel qui concerne les enfants. Comment on raconte à un enfant qui va vivre tout ce siècle une vie réussie en prenant en charge cette question du changement climatique?
Et puis il y a des leviers qui sont d'ordre plus collectif.
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, voir dans sa ville, par exemple, des réalisations exemplaires. Un bâtiment très efficace, un mode de transport qui n'utilise pas des carburants pétroliers, et puis derrière, des énergies renouvelables tirées des ressources locales. Donc, un père ou une mère qui promène son enfant dans la ville peut lui dire, tu vois cette réalisation-là, dans ta ville, dans ta vie, ça va maintenant être comme ça. Ensuite, derrière, s'inscrire dans un calendrier collectif, que ce soit le calendrier international, mais aussi les plans nationaux, et aussi, maintenant de plus en plus, les plans locaux, on agit en fonction d'une mise en mouvement collective. Et c'est là aussi que intervient la question des bénéfices. On a besoin de voir si cette lutte contre le changement climatique, elle va être positif ou négatif pour son budget ou pour l'économie. On voit bien que la création d'emplois, la diminution des dépenses de chauffage ou d'énergie, ou pour le pays des importations d'énergie, tout ça, bien évidemment, sont des facteurs qui contribuent à pousser à l'action.
Et les bénéfices pour la santé?
Oui, oui, bien sûr. Alors, huitième facteur, c'est la question de l'équité. Les gens veulent bien avoir donc des réglementations qui sont contraignantes, aussi des taxes, mais à condition que ce soit équitable entre les citoyens, mais aussi les entreprises, les collectivités locales, que chacun supporte une partie de l'effort. Et donc, en bref, pour conclure, mobiliser la population dans l'action, ça répond à un principe simple. Je fais si tu fais, si nous faisons tous.
Merci Pierre Radan.
Merci Anne-Cécile.
La chronique climat de Pierre Radan vous a été proposée par la CNR, la Compagnie Nationale du Rhône, premier producteur français d'énergie 100% renouvelable.
Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Pour témoigner sur ce qui se passe près de chez vous, réagir à l'émission, c'est pas du vent, @rfi.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, # c'est pas du vent. Demain, nous verrons comment les sociétés rurales d'Afrique de l'Ouest s'adaptent au changement climatique qui affecte déjà leur quotidien et si elles sont bien équipées justement pour faire face au futur. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.